Oh boy, j'assiste déjà à une conversation assez particulière pendant la pause. J'ai pas glissé un mot dans cette conversation-là, je vous dis. Restez à l'écoute parce que dans les prochaines secondes, notre invitée qui est ici présente va probablement vous surprendre. Audrey, qu'est-ce qui fait en sorte que tu voulais parler avec une thanatologue, toi?
Curiosité morbide. C'est une bonne réponse. Morbide. Non, mais tu sais, il y a des affaires qu'on connaît pas parce que c'est pas tous les jours que tu rentres pas. Et, comment je te dirais ça? Tu sais, mettons que je me pose des questions sur le service à la clientèle dans une restauration rapide, ben je le vois au quotidien parce que je peux aller commander chez McDo, tu comprends? Uh-huh. Mais si j'ai des questions sur la mort, le décès, comment ça se passe un coup qu'il y a un décès, quand t'es en bombe, je peux pas aller m'installer, tu comprends, dans un salon funéraire puis observer un mort se faire maquiller puis arranger. Ça marche pas de même. Fait que c'est comme si on a juste des images de films, de séries, on a les mythes ou réalités qu'on entend au quotidien, mais c'est comme un univers qui est très, très mystérieux. Puis on a une auditrice qui nous a écrit il y a un bon moment déjà qu'elle faisait ça, elle est thanatologue, puis j'avais gardé son numéro, mais sans savoir son nom, sans rien. Je sais pas pourquoi, j'ai juste pris un numéro puis j'ai écrit à côté « thanatologue ». Fait qu'en fin de semaine, j'ai écrit à ce numéro-là.
Es-tu hey, thanatologue?
Est-ce que c'est bien toi qui es thanatologue? C'est quoi ton nom? Tu sais, j'avais vraiment aucun détail. Fait que finalement, on a jasé puis on l'a avec nous ce matin.
Ouais, je vais te poser une question. Est-ce que les thanatologues travaillent uniquement la nuit, dans le sous-sol, mettons?
Mais là, non, je pense que ça, c'est un gros mythe.
Est-ce qu'ils écoutent de la musique? Si oui, qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique pendant qu'ils sont en train de préparer le mort?
C'est un peu bizarre, mais j'ai toujours imaginé de l'opéra. Je sais pas pourquoi dans ma tête, ça sonne comme grandiose.
Ah, on va en jaser. Elle est en studio avec nous, puis on est content qu'elle soit là. Son nom, c'est Marie-Pierre Charest-Godreau. Elle est thanatologue. Salut, Marie-Pierre.
Hey, bon matin.
Merci beaucoup d'être là. Je vais te poser la question. Je pense que c'est la seule fois que tu t'es fait poser cette question-là. Qu'est-ce qui t'a pris de devenir thanatologue? Ça vient d'où?
Ça vient de très, 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 très loin.
Ouais.
Oh, oui, écoute, je sais pas, quand j'ai eu une de mes arrière-grand-mères qui est décédée jadis, là, on va y aller comme ça.
Ouais.
Puis tu vois la personne dans son cercueil, parce que, tu sais, oui, tantôt, on va parler là, du avant et du après,
ouais.
Mais c'est surtout, je dirais, la manière dont la personne est présentée. Hein, c'est la présentation, puis le fait qu'on fait comme revivre un peu la personne d'une certaine manière pour la porter comme dans un repos éternel. Fait que, tu sais, c'est là la curiosité où ce que t'arrives, puis tu dis à la personne, ben, tu la vois, puis tu fais comme, waouh, tu sais, elle a l'air bien, la personne, tu sais.
Paisible.
C'est paisible, tu sais, puis il n'y a pas de trait, là, suite au décès, tu sais, c'est vraiment, en tout cas, c'est tout ce côté-là qui fait que ça m'a comme piqué une curiosité.
Mais t'étais très jeune, t'avais quel âge?
J'avais à peu près 6-7 ans, hey, à l'âge de ma fille. Oh oui, tu sais, c'est
tôt,
là. Assez tôt, tu sais, c'est là que j'ai fait, OK, ouais, non, il y a quelque chose à faire avec ça.
Okay.
Mais tu sais, plus que j'ai évolué au fil du temps, au fil des années, puis là, plus que je me suis dit, ah, t'as peu, là, on se rapproche vers quelque chose. C'est Marie-Pierre, c'est qui? Marie-Pierre, c'est quelqu'un qui est empathique, puis qui aime ça le monde, puis qui aime ça aider d'emblée. Fait ça, être en beau-mère, c'est une forme de justement d'aide envers les familles. Fait que c'est...
La mort ne t'a jamais fait peur?
Pas du tout. Okay. Pas du tout, parce qu'on va passer par là anyway quand on va arriver.
C'est ce qu'ils disent.
Du comment, du pourquoi, je sais pas. Mais tu sais, non, ça me fait pas peur, vraiment. Là, écoute, moi, mes clients, mes défunts, ils sont tous beaux, puis je les aime tous.
Dans le fond, t'as jamais eu de plainte, là?
Pas ce que je cherche.
On dit que c'est tranquille à ce niveau-là.
Ben écoute, là, s'il faudrait que ça commence à jaser dans les bureaux, là, ça irait pas bien. Non,
mais t'es-tu, c'est une drôle de question, puis on va faire le tour, mais est-ce que t'es seule avec ces gens-là décédés la majorité de ton temps?
Bien, là, c'est sûr que je vais quand même diviser le travail, parce qu'il faut ce que je cherche, et je suis encore présentement aux études pour terminer la formation de thanatopracteur. Parce que tu as le terme thanatologue, qui vient de thanatologie, qui est la science de la mort. Donc moi, oui, j'ai une attestation d'études collégiales en thanatologie, qui est service conseil aux familles préarrangement funéraire. Donc ça, c'est les personnes qui conseillent les familles justement sur les choix de rites funéraires, qui font les préarrangements, qui reçoivent la clientèle, tout ça. Mais depuis que je travaille à la coopérative des Deux-Rives, je suis brancardier. Moi, en fait, brancardière, mon travail, c'est d'aller chercher les défunts dans leur milieu de décès, que ce soit un hôpital, un CHSLD, un RPA, à domicile, à la morgue de Montréal ou à la morgue de Québec. Donc, tu sais,
OK, ils ne sont pas nécessairement beaux encore quand toi, tu les récupères, là.
Non.
Il doit y avoir des affaires pas belles pantoute, hein?
ça peut arriver, certains là, de cas de suicide par balle ou des trucs comme ça, là, on va les chercher, puis malheureusement, là, des fois, c'est la tête qui est à refaire. Là, si on arrive à faire de la thanatoplastie, en fait, c'est vraiment la reconstruction. Là. Je ne me suis pas rendue jusque-là là, au niveau des études, puis tout ça, ça ne m'est pas arrivé encore, même en travaillant, là, mais oui, ça peut aller jusque-là. Je connais certains embaumeurs qui ont passé 12, 13, 14, 15 heures sur des défunts à reconstruire une boîte crânienne. Donc, mais tu sais, oui, non,
fait
on les voit.
Fait qu'il y a rien d'irrécupérable, ça
ben,
peut...
on a un principe, nous autres, dans nos cours de physique puis dans nos cours de chimie qu'on suit, rien ne s'opère, rien ne se crée. Fait que tu sais, on réutilise tout, en fait, tu sais, puis on utilise la personne telle qu'elle, puis même une personne qui est autopsiée, que ses viscères sont à l'intérieur de lui dans des sacs de déchets biomédicaux, ça part avec lui, là. Oui, ils sont un peu à l'intérieur de lui, mais ça lui appartient. Donc, on fait partie de la grande chaîne que, tu sais, de la dignité humaine. Donc, oui, c'est sûr que ces morceaux-là vont rester avec lui jusqu'à la fin.
Est-ce que tu leur parles?
Je pensais pas dire ça à la radio un jour, là, mais oui, je leur parle.
Pourquoi?
Ben je sais pas, ça vient comme instinctivement, j'ai tout le temps besoin de...
En fait, on le fait tout, là, je veux dire, on va pas souvent un corps avec le cercueil ouvert, là, dans les funérailles, maintenant c'est souvent des urnes et tout ça, mais quand on a des funérailles où le tombeau, où le cercueil est ouvert, puis là, la personne a été préparée par vous autres, on a tous ce réflexe-là de lui parler dans notre tête. Je viens de voir, j'espère que t'es correct, écoutez, t'sais. On le fait tous, là. Faut pas être gêné de ça.
C'est vrai, non, mais c'est parce que, oui, là, tu dis, on parle dans notre tête, mais moi, je leur parle pas dans ma tête, je leur parle à voix haute.
Ah, ça, c'est weird!
Fait que là, à quel point que des fois, je vais passer pour une méchante folle, là? Mais non, moi, j'aime ça, en fait, tu sais, quand je vais chercher des messieurs, des madames, j'aime tellement ça, leur caresser les cheveux. Puis, tu sais, de toute façon, dans ma réfication, on a comme un protocole, nous, quand on va chercher les défunts, de valider qu'ils n'ont plus d'objets personnels, puis tout ça, parce que, tu sais, on les remet à la famille, surtout quand c'est des bijoux, tout ça.
Il faut que tu fasses le tour, anyway, t'as pas le choix de t'apporter.
Oui, non, tu sais, on n'arrive pas juste avec le corps, on le met en salle réfrigérée, puis notre job s'arrête là. Tu sais, en tant que brancardier, on a un protocole, tout dépendant aussi des entreprises funéraires. Mais moi, j'ai un check-up à faire, excusez mon anglicisme, mais j'ai vraiment une vérification, puis une validation d'identité à faire. D'emblée aussi, aller vérifier justement tout ce qui est objet personnel. Les vêtements, est-ce que les vêtements sont souillés? Si les vêtements sont souillés, bien, malheureusement, on ne redonnera pas ça à la famille. Donc, souvent, des fois, comme dans des cas de traumatisme ou des choses comme ça, d'emblée, les vêtements sont déchirés par les paramédics. Donc, tu sais, ça, on va les déposer dans les déchets biomédicaux, on va les jeter tout simplement. Mais tu sais, quand des fois, les familles nous donnent les vêtements, parce que la personne s'en va justement en crémation, mais tu sais, la personne en crémation, elle s'en va pas tout nue, là, en fait. Là,
et ça, j'ai l'impression que c'est une vision qu'on a, que vous la déshabillez, puis mais c'est pas ça, là. Elle peut avoir un habit littéralement pour...
Ouais, carrément.
Tu veux-tu arriver en haut à poêle, toi?
Ben non, mais en même temps, tu descends à poêle, là, c'est ce qu'ils disent dans la Bible, là. Il me semble que t'arrives tout nu sur la terre.
Oui, mais
là,
c'est moins gênant quand t'es bébé que quand t'es adulte.
Je suis très d'accord avec toi.
Mais non, tu sais, j'en reviens encore à dire qu'on parle de la dignité humaine, parce que l'article 1 du Code civil dit que tout humain a droit à respect puis à la dignité humaine. Donc, c'est un peu la même chose pour nos défunts. C'est notre travail de garder cette dignité-là chez la personne. C'est notre travail, justement, de montrer qui elle était autrefois. Puis même si quelqu'un part à la crémation, ben lui aussi a le droit d'être en vêtements, puis d'être même, tu sais, c'est pas obligé d'être un complet veston-cravate ou une robe du dimanche soir, là. Mm-hmm. Ça peut être simplement, je sais pas, moi, grand-papa Bi, que ça faisait 10 ans qu'il était malade, puis qu'il aimait ça être en pyjama toute la journée parce qu'il était confortable là-dedans. Bon, mais pourquoi pas,
ben,
tu sais?
Oui. Marie-Pierre Charret-Godreau, écoute, on a plein de questions à te poser, puis j'invite les auditeurs, si vous entendez notre thanatologue en ondes, puis vous avez des questions, contactez-nous au 418-971-1021, ça va se faire par texto. Qu'est-ce qui fait en sorte que au Canada, on ne peut pas prendre un défunt puis tout simplement le mettre dans l'incinérateur pour recueillir les poussières puis par la suite mettre ça dans une boîte? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça doit automatiquement passer par vos mains?
Bien, nous, en fait, on travaille pour le ministère de la Santé et Santé publique, en fait. Donc, ouais. Nous, on doit... Si on y va un peu plus complexe, un corps face au décès, suite à un décès, ben je veux pas être plate, mais c'est un déchet. C'est je veux pas peser mes mots là-dessus, là, mais c'est du biomédical. Tu sais, on a des enzymes dans le corps que ben, ça va travailler fort, on peut avoir une émanation de gaz aussi, la putréfaction va avancer. Fait que, tu sais, c'est des bactéries, c'est des multitudes de bactéries. Donc, nous, on doit protéger l'environnement et le public face à ça. Fait que oui, selon la loi, en fait, on est régi par des lois, on doit absolument au moins avoir une toilette, une dernière toilette pour le défunt. Okay. Donc, on appelle ça dans le jargon une asepsie. Donc là, on va avoir une désinfectation du corps si on ne se rend pas nécessairement à l'embaumement avec une exposition, etc., là, mais même à la crémation aussi. Puis honnêtement, vous, votre père ou votre mère, est-ce que vous aimeriez le savoir partir, pas désinfecté? Mettons, il est dans un CHSLD, là, il accouche aux fesses, la couche n'est pas changée. Puis nous autres, on s'en va le chercher, puis il est comme ça, la bouche tout croche, puis whatever, tu sais.
Un très bon point.
On parlait de respect tout à l'heure, ben c'est ça. Le respect, dans le fond, nous, il va passer dans nos mains pour une fermeture de bouche, une asepsie, la dernière toilette, comme on disait, la désinfectation, après ça, l'habiller propre, enlever la couche, justement, nettoyer les orifices. On a vraiment une procédure à faire, justement, pour la conservation, là. Minimiser au moins les bactéries sous le corps, là, après le décès.
Deux affaires. Tantôt, Yann a parlé du fait, puis c'est vrai, là, on dirait que quand tu vas dans des funérailles aujourd'hui, c'est comme si la crémation a l'air plus populaire maintenant que l'exposition. Est-ce que ça, vous l'observez dans le day-to-day? Non, non, c'est pas vrai. Il y a encore beaucoup d'expositions.
Bien, effectivement, ça, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont qui choisissent la crémation pour diverses raisons. Mais on a encore aussi, il ne faut pas banaliser qu'on a à peu près encore 20 % là, de la clientèle là, qui choisissent des embaumements, tout ça. Pour la simple raison que si je vais avec des familles qui prennent des crémations, c'est parce que d'emblée, si on poursuit la génération où on est aujourd'hui, on parle des familles qui sont un peu nombreuses. Mm-hmm. C'est pas comme dans le temps de nos grands-parents, ou ce que ça avait 10, 15 frères et sœurs, puis tu sais, nous autres, ben on, tu sais, moi j'ai deux sœurs, puis après ça, on est comme pas mal maximum dans la famille. Ça. Fait que tu sais, on fera pas un gros party après, puis ça nous pas de croûte, tu sais, paraît que ma tante Ginette a été embaumée quand la famille est très, très restreinte. Les gens vont se dire, ben tu sais, voyons, il n'y a plus personne dans la famille. Fait que tu sais, pourquoi qu'on ferait pas ça en bonne franquette, tu sais, une petite cérémonie, tu sais, liturgie de la parole, puis ça. Puis ça dépend encore des croyances des gens aussi au fil des années, tu sais.
J'imagine que ça coûte plus cher embaumer quelqu'un que de, j'allais dire, que de le faire brûler, c'est épouvantable, que de le
crématiser.
Faire... Merci, je veux dire cramer, c'est pas mieux, crématiser. J'imagine que ça coûte plus cher de faire embaumer quelqu'un.
Bien, c'est sûr qu'il y a des frais reliés à ça, là, parce que, tu sais, il y a le salaire du thanatopracteur, il y a les produits qu'on utilise aussi, tu sais, les liquides d'injection, tout ça, ça a un certain coût. Mais, tu sais, on y va quand même avec le budget de la personne, puis, tu sais, on y va quand même, tout dépendant aussi, est-ce qu'ils ont des préarrangements, puis, tu sais, ça aussi, c'est une autre tangente aussi. Là, les préarrangements funéraires, là, c'est encore très, très présent là, aujourd'hui. Mais non, c'est sûr qu'il y a des frais un petit peu plus élevés pour un embaumement, effectivement.
Il y a un texto qui entre, puis je trouve que c'est une bonne question. T'sais, je ne sais pas si tu as un ou une partenaire de vie, mais la personne nous demande, est-ce qu'elle parle de son travail à son partenaire ou sa partenaire, du genre, tu sais pas ce que j'ai vu aujourd'hui? T'sais?
Bien, c'est sûr qu'on a quand même un contexte de la protection là, des informations là, par rapport à la clientèle qui se retrouve entre nos mains, qui pourrait être facilement identifiable dans telle situation. C'est sûr que, oui, mon conjoint, je vais hyperventiler sur quelque chose que j'ai vécu, soit que je suis allée chercher un enfant ou un bébé ou un fœtus ou des choses comme ça qui est venu plus me chercher que d'autres choses. Mais, tu sais, des fois, c'est juste comme lui raconter ma journée sans vraiment nommer de détails. Moi, j'y vais surtout avec le terme monsieur, madame, mais tu sais, je vais essayer de maximiser mes dires sur des détails qui pourraient influencer telle chose, parce qu'on est quand même restreint sur le professionnalisme. Mais oui, c'est sûr que mon partenaire de vie va en savoir plus un peu que mon entourage, là, justement pour une question là, de respect et tout. Là.
T'as-tu joué à la chienne?
Bien, ça dépend à quel contexte, okay. La chienne. Je travaille de soir, peut-être.
Je vais te raconter une histoire. Ça s'est réellement passé. C'était sur Saint-Vallier, au centre-ville de Québec. Puis, ça s'appelle l'épine et cloutier. Puis, il y a des comment t'as appelé ça tantôt, les gens qui transportent les
brancardiers ou les transporteurs.
Bon, il y avait des brancardiers et des transporteurs. Puis là, il y avait un nouveau qui était à l'essai cette journée-là. Ça se passait soit un samedi ou un dimanche. Puis, on lui a demandé d'aller chercher une personne dans à l'endroit où c'est réfrigéré. Puis lui est allé, puis quand il est allé chercher la personne, il l'a tassé, puis il y a du vent qui est sorti. Fait que par la bouche, ça a comme fait un genre de... Puis lui, le monsieur, ça l'a complètement gelé. Puis il a dit, moi, ce métier-là n'est pas pour moi, je quitte. Ça, est-ce qu'ils vous avertissent avant que ça se peut que ça arrive, tu sais, que le corps, eh bien, veut pas, s'il y a de l'air encore, ça se peut qu'elle se libère?
Bien, effectivement, c'est un phénomène qui est tout à fait normal, surtout dans un cas, exemple, un domicile qu'on va chercher, le corps est décédé avant les 6 dernières heures. Souvent, quand on va dans les domiciles, c'est pronto, on y va assez rapidement.
Ouais.
Oui, il y a encore de l'air dans les poumons, ça l'arrive. Moi, ça m'est arrivé très souvent. Mais j'ai déjà vu des policiers aussi faire un petit clin d'œil à la police de Lévis, là, qu'on a fait un domicile, qu'il y en a un qui a eu vraiment la chienne quand il y a eu cet effet-là. Mais bref, non, ça ne m'a jamais... non, parce que d'emblée, comme je disais tout à l'heure...
Quand tu le sais.
C'est ça. Quand tu le sais, puis les cours aussi qui des cours anatomiques qui nous fait comprendre que c'est un processus tout à fait normal là, du corps humain. Là.
C'est ça que je trouve fascinant, c'est que je me rends compte que c'est un peu plus médical, entre guillemets, que je pensais. Est-ce qu'il y a des pathologies qui changent un peu votre travail? T'sais, mettons, je ne sais pas, monsieur, madame a une maladie certaine, ou est-ce que ça peut venir changer au décès dans votre façon de travailler?
Oui, absolument. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a une jaunisse lors du décès, dans les produits d'embaumement qu'on va utiliser, bon, il n'ira pas utiliser un produit à base de formaldéhyde parce qu'au contact d'une certaine toxine, un certain produit dans le liquide d'embaumement et le jaune, de la jaunisse, en fait, là, j'ai plus le terme médical dans ma tête, là, désolée, mais ça, à ce contact-là, là, sans joke, ça vient vert comme mes cheveux.
Arrête!
Ben oui,
fait
oui,
que ton
oui.
mort, il est vert.
Ah oui, il vient vert. Fait que, tu sais, là, on utilise un autre traitement là, pour contrer à la jaunisse, là, pour injecter un liquide de préservation. Là. Mais, tu sais, les gens sclérosés, là, on va avoir de la difficulté à embaumer parce qu'il va y avoir des caillots ou, tu sais, les artères vont être sclérosées qui vont être vraiment difficiles à les soulever ou à les injecter là, pour que le liquide d'embaumement soit le plus diffusé possible dans tout le corps.
Ça vous prend-tu une photo du défunt?
Oui.
Okay.
Oui, parce que évidemment après qu'on ait fait le traitement avec le liquide de préservation, ben nous on l'a vu dans son pire état. Mais tu sais, on veut l'amener à l'état où il était. Donc tu sais, on demande une photo récente là, de pas plus que des mois par exemple. Là. C'est sûr, si la famille nous arrive avec une photo là que là 10 ans, là, on va essayer d'y aller là, mais
ça se peut que ça ressemble
pas tant
que
ça. On aime ça le plus récent possible effectivement. Là. Fait que c'est pour vraiment que la personne soit telle quelle. Avant le décès. C'est vraiment cette image-là qu'on veut projeter.
Je ne sais pas si je peux te demander ça, mais c'est quoi vos trucs quotidiens? On entend souvent la colle. T'sais, vous collez genre les yeux, la bouche, les mains. Je ne sais même pas si c'est vrai, là, mais je veux dire, j'ai entendu ça souvent, que les morts sont collés pour être sûr qu'ils ne bougent pas dans le cercueil et que tout soit correct. C'est quoi, mettons, les petits tips comme ça au quotidien que vous utilisez pour qu'ils soient bien présentés devant nous autres?
Bien, c'est sûr que les membres supérieurs, les membres inférieurs ne bougeront pas d'emblée. Là. Ça, c'est certain, parce qu'avec la gravité et le liquide d'injection, là, ça ne bougera pas. Là. Ça, soyez sans crainte. Là, vous ne verrez pas un défunt là, stepper dans son cercueil. Là. Mais c'est sûr qu'au niveau des paupières, au niveau des lèvres, ben, d'emblée, quand on décède, là, tout a tendance à ouvrir, là, à moins que la personne, on lui ferme les yeux tout de suite après le décès là, pour essayer de contrer là, la gravité. Mais non, oui, on utilise un petit peu de colle au niveau des paupières pour vraiment venir fermer les paupières pour qu'elles restent là, vraiment le plus étanches possible. La bouche, en fait, on utilise la colle, oui, mais on a une pratique, en fait, qu'on appelle le contour mandibulaire. Donc, le contour mandibulaire, en fait, on utilise un fil et une aiguille. Donc, on vient vraiment là, au niveau de la fente labiale, on descend l'aiguille serpentine au niveau du pli mentonnier, on repasse à l'intérieur, on vient faire une boucle, on passe... Il faudrait quasiment que je fasse un schéma, là, mais tu sais, on vient vraiment, effectivement, on vient vraiment passer vers la mandibule, à l'arrière de la mandibule, ensuite on repasse l'aiguille serpentine vers le haut du nez, on traverse le septum, on redescend pour que par la suite, on puisse venir vraiment serrer le fil et faire une boucle pour que la bouche reste le plus serrée possible. Et oui, à la fin de l'embaumement, avant qu'on applique le maquillage, on va venir vraiment sceller la bouche avec de la colle c'est tout près de l'exposition là, pour que ça soit le plus étanche possible.
Est-ce que
puis
les
en même temps, c'est une protection. Non, main, c'est pas collé. Le main, on peut utiliser plusieurs techniques. On a le paume-main, en fait, comme on appelle. Là. C'est qu'on passe une aiguille serpentine à l'intérieur de la main, puis on vient comme faire une boucle, puis on vient rattacher la main de cette façon-là pour que, justement, le fil passe dans la peau et que ça soit plus solide. On veut de la solidité, hein, parce que, tu sais, quand on a un défunt qui est en exposition, bien, d'emblée, on le sait que les gens vont vouloir toucher cette personne-là. Fait que, tu sais, on voudrait pas que que tu sais, si on colle, qu'il arrive quelque chose, exemple, puis que ça lâche, là. Fait que, tu sais, on voudrait vraiment utiliser cette technique-là. Mais il y a un élastique qu'on peut appuyer sur les pouces, puis qu'on vient rentrer les pouces comme ça, puis on, après ça, on place les mains.
Oh,
okay. Ouais. Fait que, tu sais, il y a des techniques, là, de cette manière-là.
C'est vraiment morbide, là, mais est-ce que la texture de la peau change?
Oui.
Oui?
Ben, c'est... Oui. Ben, oui puis non. Là, c'est comme une question en double sens. T'sais, on va avoir des gens qui vont décéder très jeunes, qui vont avoir encore la même texture de peau. Mais tu sais, quand on parle d'une personne âgée de 90 ans, par exemple, qui a une délamination de la peau, là, c'est sûr qu'on a une fragilité au niveau de la peau. Ça sera pas la même chose. Mais tu sais... Y a pas... Là, tu parlais plus du toucher, Audrey? Ou
Ben, oui, mais je sais pas. On dirait que je... vous manipulez, veux pas, les personnes décédées. Puis on dirait que je sais pas. Je me demandais si c'est la même affaire que quand tu touches à quelqu'un dans ton entourage. Qui est... J'imagine que c'est plus chaud, là.
Non, c'est sûr. Tu vas avoir. Il va avoir de la lividité cadavérique. Oui, tu vas avoir de la froideur. Mais tu sais, c'est sûr que la texture de peau, comme une personne qui est vivante, tu sais, notre peau, on la pince, elle revient. Mais tu sais, un défunt va souffrir de déshydratation la plupart du temps. Tout dépendant des contextes, mais oui, tu sais, quand on va peser, la texture, elle n'est pas pareille, là, d'une certaine manière.
Avez-vous déjà eu des demandes bizarres, genre, moi, je préfère être couché sur le côté dans mon cercueil, non?
Ça ne m'est pas arrivé.
Non.
Puis mes collègues au travail, je pense pas non plus que ça soit arrivé.
Parce qu'aux États-Unis...
c'est la mode.
Ben, je ne sais pas si c'est la mode, là, mais moi, j'ai vu des...
Arrête, il y a du monde pas couché normalement?
J'ai vu des trucs qui n'étaient pas piqués des verres, là. Donc, le gars, c'est un fan d'Harley Davidson. Mm. Et il a décidé, lui, que son cercueil, ça allait être son Harley Davidson. Donc, il est organisé, assis sur son Harley Davidson.
Il est empaillé sa moto.
Un genre d'empaillement, là. Je veux dire, ce genre de choses-là ne se fait pas au Québec.
Ben, c'est sûr qu'on est ouvert à toute demande, mais tu sais, dans la mesure du possible ou ce que c'est digne pour la personne, tu sais, je veux dire...
Ouais, mais c'est à sa demande.
Je peux comprendre. Moi, personnellement, je trouve ça un petit peu élevé, là, tu sais, je sais que...
Ah non, moi, j'aimerais
monsieur,
ça être enterré comme Harley Davidson.
Mais tu peux-tu garder quelqu'un empaillé dans ton salon, genre, ou c'est illégal?
Ben non, parce que...
Je commence à craindre pour petit chum, là.
Non, mais là, j'ai tellement de questions, là, on n'aura pas assez
mais
de temps.
Mais non, c'est... Non, la personne, suite au décès, doit être inhumée ou crématisée.
Il doit avoir une...
Oui, définitivement. Là, on est à une finalité de la vie, là, donc on doit disposer du corps là, légalement.
Il y a une question qui rentre par texto qui est aussi morbide, mais c'en est une bonne. Quand vous remplacez le sang par le liquide de préservation, où va le sang?
Là, il faut que je dise des punchs, mais il n'y a pas de tabou, en fait. Le sang s'en va dans les égouts.
Ouais. Oui. Ça, je le savais.
Ah
oui,
hein? Mm-hmm. Ah, je suis comme pas bien.
Tu veux qu'ils mettent ça à quel endroit?
Je sais pas. Qu'ils flambent ça, qu'ils je sais pas.
Ben c'est sûr que oui, on va avoir des déchets biomédicaux, là, tu sais, je veux dire. Mais le sang, on est régi par des lois, on a un système de ventilation, on est équipé justement pour la protection, tout ça. Mais le sang, oui, s'en va dans les égouts et après ça, il est refiltré... Et bu.
C'est intéressant.
Ouais, mais en tout cas, on a assez des produits forts là, pour contrer
ou battre tout ça. C'est vraiment intéressant.
Mais quoi, tu boiras plus de l'eau de la Champlain? Hein?
Mais non, mais tu sais, quand tu penses juste pas à ça, j'avais jamais réfléchi à ça.
C'est quoi, quoi la différence entre un embaumeur et un thanatologue?
Il n'y a pas une grande différence, en fait. Un thanatologue, c'est la personne qui a étudié la science de la mort, un peu la même chose qu'un thanatopracteur. C'est juste que la différence, c'est un permis d'embaumement qu'on a là, à la suite là, de l'obtention là, du DEC en thanatopraxie. Donc, ce que je suis en train de faire présentement. Mais sinon, thanatologue, c'est les gens qui peuvent recevoir la famille, en fait, les conseillers. Ça peut être des brancardiers, ça peut être... Il y a un éventail, là... de gens du domaine là, qui peuvent avoir une formation académique là, qu'on appelle une attestation d'études collégiales là, en service conseil famille ou préarrangement funéraire. Là. Mais tu sais, il y en a encore là, qui apprennent ça un peu sur le tas, là, comme on dit.
Tu sais, mettons, quand tu veux devenir policier, là, ils te font faire des tests physiques, puis tu as comme des prérequis, on dirait, là, pour faire ce métier-là. Y a-t-il des prérequis pour être thanatologue, embaumeur, peu importe, pour faire ce type de métier-là?
Oui. Avant la formation académique là, que je suis en train de terminer, d'emblée, on demande au moins à avoir... ça fait longtemps, moi, que j'ai lâché l'école là, avec mon âge puis tout ça, là, mais en fait, il faut avoir des mathématiques fortes puis des sciences fortes parce que, tu sais, d'emblée, on joue sur le chimique. le chimique du corps, la biologie, etc. Mais on joue aussi avec des produits chimiques. Donc, il faut au moins savoir, exemple, là, la formule qu'on utilise le plus souvent au travail, c'est C1V1 est égal à C2V2. Parce qu'on veut savoir la concentration finale d'un corps versus son poids, etc. Ou le nombre de volumes qu'on a à insérer à l'intérieur de la dépouille. Là. Donc, mm-hmm. c'est des petites formules là, qu'on a besoin d'aller chercher là, en chimie.
Le profil type psychologique des étudiants en thanatologie, ça peut être quoi?
Oh mon Dieu, là, si je dis ça de mes confrères et de mes consoeurs, ils m'aimeront pas.
Je pense qu'ils t'écoutent, ils ont dit que tu étais la meilleure thanatologue.
C'est vrai, on a des
ils sont trop fins. Ben, je pense qu'on est toutes fous. En tout cas, je dis... Mais je dis ça en riant, puis tu sais, je pense à eux autres en ce moment qui m'écoutent parce que je leur ai dit d'emblée dans ma cohorte là, que je venais ici ce matin. Mais non, je pense qu'il faut tout être un peu, pas creepy, mais il faut tout avoir un petit quelque chose, autant relation humaine, autant relation d'aide, autant un petit peu d'aimer des choses qui sont hors normes. Tu sais, si je regarde mes consoeurs, mes confrères de classe, on a toute une similarité là, au niveau intellectuellement parlant. Tu sais, on est tous des gens qu'on est proche de l'humain, on est proche des autres à notre certaine façon. D'un, on est tous des fous, des chats. Là. On est plusieurs gangs dans notre chat. Parce que je sais pas si c'est un prérequis de Thanato pour avoir plein de chats. Là. Mais en tout cas, bref, non, on a tous... Je sais pas, je pense qu'on se rejoint tous d'une certaine manière. Puis c'est ce qui fait notre charme, je crois. Là. Mais en fait, tu sais, on peut pas banaliser un croque-mort comme on appelait dans le temps. Là. En fait, on est des bons vivants. Là. On aime ça rire, on aime ça être parmi le monde.
Mais est-ce que vous êtes très terre-à-terre ou un peu spirituel, ésotérique?
Oh
parce
boy.
Que je sais pas s'il faut que tu sois justement très réaliste pour la vie, la mort, puis c'est un corps.
Oui.
Ou s'il faut que tu sois un peu spirituel, tu sais?
Ben, je pense pas que c'est des... C'est... Oui, tu sais, on a certains... En tout cas, moi, d'emblée, oui, je suis plus la personne qui va essayer d'analyser la situation pour trouver une solution. Mais j'ai quand même comme la moitié de mon cerveau là, qui croit là, comme à la vie après la mort. Là,
okay.
Tout ça, tu sais, qui a vécu des expériences aussi paranormales au travail ou peu importe. Mais je pense pas que tous mes confrères ou mes consoeurs du métier ou étudiants, on est, en tout cas, on a toute cette mentalité-là, au moins du travail bien fait, de la minutie aussi. Fait qu'on vient tous se rejoindre là-dedans parce que, tu sais, travailler sur une dépouille pendant un certain nombre de temps, utiliser les outils qu'on a, parce que, tu sais, c'est des outils chirurgicaux, là. Puis il faut quand même être très, très minutieux là, lorsqu'on soulève un artère, parce que, si on a une artère justement qui est sclérosée, ben tu sais, il faut y aller tranquillement, pas vite, parce que sinon, si on va trop vite et qu'on va trop brusque, mais ça pourrait arriver que notre artère se sectionne. Là, on fait quoi rendu là? On est dans une piscine de sang, là, tu sais, carrément, là. Fait que, tu sais, on est tout. En tout cas, je pense que s'ils m'entendent, ils diraient oui, j'ai raison. On a toute la minutie, on a toute la patience, on a toute. Beaucoup d'entre-gens, puis tout ça, beaucoup d'empathie aussi. Fait que c'est les caractéristiques d'un thanatologue d'emblée là, qu'on retrouve.
Tu parlais d'expérience paranormale. Y en a-tu qui t'ont déjà confié en avoir eu? Parce que moi, j'ai reçu un gars qui a écrit quelques livres. Je pense qu'on avait nommé les livres en nom de toi et moi. Il a été thanatologue pendant plusieurs années. Je pense que c'est le croque-mort. Je pense que c'est comme ça qu'il s'appelait dans ses livres-là. Puis il mentionnait qu'à un moment donné, il y avait plusieurs choses qui lui sont arrivées dans sa carrière, là, puis qu'il n'était pas capable de s'expliquer. Peut-être qu'un scientifique là, qui ferait des études énormes sur les faits qui nous amenaient dans ses livres aurait dit « Ah, ben c'est peut-être telle affaire », mais dans sa tête à lui, il n'était pas capable d'expliquer ce qui se passait. Est-ce que dans tes collègues, il y en a qui t'ont rapporté avoir vécu ce type de choses-là?
Non, je pense qu'on n'a pas eu le temps de se poser la question, mais moi, au travail, oui, avec plusieurs collègues de travail, en travaillant de soir, on a des moments où c'est un peu spécial. Là. Ça m'est déjà arrivé une fois, parce que quand on travaille de soir, c'est de 15h à 23h. Puis je me souviens une fois, on était assis sur le banc, puis tu sais, on est comme on call, là, on attend justement s'il n'y a pas quelque chose qui va arriver. Puis, à un moment donné, j'étais en train de parler à mon collègue, puis on entend une porte de char qui ferme. Mais c'est une porte de char qui ferme à 11h le soir, voyons. C'est quoi cette histoire-là? Il n'y a personne dans la bâtisse à part nous autres, là, tu sais.
Mm-hmm.
Mais on s'en va dans le garage pour voir, mais les fourgons, toutes les portes étaient fermées, tout était fermé, fait qu'on ne comprend pas, pantoute, c'est quoi qui s'est passé, tu sais.
Fait qu'il y a des petits mouvements de
mais
même.
C'est ça, mais tu sais, les portes de l'auto étaient toutes fermées. Fait que pourquoi que là, ça a ouvert puis ça a fermé, je sais pas. Mais moi, je sais que mon collègue est venu blanc comme un drap.
Oh, ouais!
Il avait hâte de s'en aller. Dis-moi, là, je resterai pas ici une minute de plus.
C'est dommé comique.
Et peut-être un peu plus alerte sur les signes. Là. Tu t'installes un billet dans ta tête. Tu sais, comme tu es dans un endroit qui est quand même assez climatisé, il fait 23 degrés. Tout d'un coup, tu as un coup de vent extrêmement froid.
Ouais.
Tu sais pas d'où ça sort. Là, toi, ta première impression, c'est oh, on m'envoie-tu un message.
Et tu travailles avec les morts, j'imagine, c'est sûr, tu as cette
facette-là
qui te dit oui, inévitablement.
J'imagine, non, en tout cas.
Comment le métier a évolué? Je vais dire de croque-mort à ce que c'est aujourd'hui. Y a-t-il des choses flagrantes qui ont changé avec le temps dans votre pratique?
Oui. Bien, on a une tangente, plus comme on parlait tout à l'heure là, au niveau de la crémation. On a encore un certain 20% de la population qui vont aller avec les embaumements et les rituels funéraires. C'est un peu comme dans le temps de nos grands-parents, mm-hmm. où ce qu'on les veillait dans le temps, là, dans le salon, etc. T'sais, là, c'est sûr, on n'en aura plus de ça aujourd'hui. On parlait tantôt, justement, des familles qui sont un peu nombreuses, fait qu'on va vers la crémation, puis les choses qui sont un petit peu plus simples. Donc, ça serait de ce côté-là. T'sais, on suit vraiment le côté contemporain, surtout au niveau des générations, qui est complètement différent. Nos familles sont peu nombreuses. Donc, les gens ne croient plus nécessairement aussi avec la religion. Donc, oui, il y a ça qui fait en sorte qu'il y a une grosse différence dans nos pratiques. Mais il y a aussi où on a remarqué que la pandémie est venue comme rajouter quelque chose aussi. Puis je m'explique là-dessus, c'est qu'on a remarqué que, parce que effectivement, suite à la COVID-19, c'est devenu comme une maladie à déclaration obligatoire, comme on appelle nous autres dans le jargon, l'AMADO, en fait. Donc ça, c'est certains types de pathologies ou en fait de maladies qu'on doit déclarer au ministère de la Santé et Sécurité publique, justement pour prévenir un taux
la contagion,
effectivement. Donc, c'est sûr que, par exemple, quelqu'un qui a la peste ou le choléra ou des choses comme ça, on n'aura pas nécessairement le droit de pratiquer sur cette personne-là. La COVID en faisait partie au début. Là, quand ils ont un peu plus compris c'était quoi la COVID, là, ils ont moins resserré l'étau là, sur cette maladie-là. On a encore quand même des restrictions à prendre, évidemment, vu que c'est volatile aussi comme maladie. Mais on a remarqué que les gens... c'était une crémation directe dans ce temps-là quand les gens décédaient de la COVID. Donc, les familles n'avaient pas nécessairement le temps de voir le défunt.
Oh, mon Dieu.
Donc, on a remarqué une petite tangente là, à revenir un peu dans les rituels funéraires avec une exposition du corps. On ne parle pas là, de veiller comme pendant 2 jours de temps. Là. Mais tu sais, on parle d'une petite exposition de corps. Ensuite, on parle vraiment d'aller à l'église avec le corps, ensuite de revenir pour ensuite que le corps parte à la crémation. Ça peut être un enterrement aussi avec... Il y a plein de facteurs.
Il y en a qui font les deux. Là,
ils font les deux. Ou sinon, ça peut être vraiment là, une exposition. Ça peut être ensuite là, vraiment le cortège funèbre là, avec les véhicules de direction, le corbillard, etc. Puis on s'en va porter la personne soit en crypte ou dans une fosse là, au cimetière. Là. Fait qu'on en a encore de tout ça.
La technologie a-t-il changé quelque chose aussi dans votre pratique?
Oui. Oui, mais surtout nous, les brancardiers. Je ne sais pas, en fait, si ça vous dit quelque chose, un SP3.
Non.
C'est la déclaration de décès, en fait. Donc, nous, on a ce papier-là qui nous autorise à transporter le corps.
T'as plus besoin d'y mordre l'orteil, là.
Non, c'est pas cette date, ça.
Hey, ça m'écoeure.
Surtout quand on les orteils un petit peu jaunes. Non. Mais en fait, ce papier-là qui nous autorise à effectuer le transport, on a toutes les causes de décès qui sont dessus. Puis en fait, c'est ce qui dirige les thanatopracteurs justement sur quel type de liquide d'injection qu'on veut utiliser là, pour ce corps-là. Mais ce papier-là, en fait, il nous autorise le transport, oui, mais tu sais, dans le temps, je dis dans le temps, mon Dieu, ça date de pas si longtemps que ça, finalement. J'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça, tu sais. Mais j'ai vu l'entre-deux, moi, en fait, parce qu'on avait le SP3 formule papier, tu sais, copie carbone, 3 couleurs, là,
ouais.
La jaune, la verte, la rose puis la blanche. Bien, ça, le médecin, il devait signer cette feuille-là puis nous donner des copies pour transporter le défunt. Mais là, maintenant, avec la technologie, on est sur le SIED, que ça s'appelle, qui est le système d'information échographique de je sais pas quoi, de Québec, en tout cas, peu importe. Là. Mais ça, c'est communément appelé le SP3, en fait. À cette heure, c'est tout informatisé. Fait qu'on peut
C'est plus simple pour nous
parce qu'on peut se promener justement avec une tablette, un cellulaire, on a la copie du SP3, on arrive sur notre lieu de décès, on monte cette copie-là à qui de droit avant de quitter avec le corps, puis...
OK. Hey, j'ai des textos qui sont rentrés. Il y en a qui sont particuliers, là. Je vais les garder pour la fin. Salutations, quand tu as dit, Marie-Pierre, que les thanatologues étaient tous un peu fous, effectivement, mon père était thanatologue aussi. On est effectivement spécial. Quand j'étais jeune, je jouais à embaumer ma sœur.
J'adore!
C'est bon, ça! Il y a un autre auditeur qui demande c'est quoi le temps moyen pour arranger un corps?
arrangé dans quel sens? Si on calcule, mettons, la coiffure, le maquillage, l'embaumement, on peut passer entre 1h15, 1h30, 2h.
OK.
Mettons.
Par personne.
Ouais.
Est-ce vrai que les corps se conservent mieux quand les gens sont mis dans des mausolées?
Ben, les mausolées, des cryptes ou peu importe, mais en fait, si on regarde un mausolée avec un colobarium, la personne, c'est ses cendres qui s'y retrouvent dans un mausolée. Où on a des cryptes, en fait, c'est que les gens vont complètement... ça va se momifier à long terme.
Okay.
Donc, la conservation, oui, il va avoir... tu sais, c'est pas une conservation définitive qu'on fait sur un corps. Hein. C'est juste pour ralentir la putréfaction là, chez une dépouille. Mais tu sais, ça sera pas comme... ça sera pas comme des thanatopraxies définitives comme Lénine à Moscou, que lui, ben, à chaque année, il y a sa petite équipe de thanatopracteurs qui vient refaire des soins dessus pour le garder vitam aeternam. Là,
c'est t'sais. Vrai?
Ah ouais. Oh oui, c'est, vous marquerez ça sur Google, là, Lénine là, en embalming. Puis lui, à chaque année, il y a son équipe d'embaumeurs qui va prendre soin de lui, qui va le conserver. Mais t'sais, nous, on va pas jusqu'à là. On essaye d'irradier le plus de bactéries qu'on peut, le prolonger tout dépendant du temps d'exposition de la personne.
Ouais.
Mais tu sais, sinon, quelqu'un qui est dans une crypte va finir par se dessécher puis se momifier, en fait.
OK. Autre question. Si jamais un jour, il y a quelqu'un, un ami ou encore un membre de ta famille qui décède, est-ce que tu lèverais la main pour t'occuper de cette personne-là?
Oui. Ben pas plus tard qu'en février dernier, mon beau-père est décédé. Donc, il tenait mordicus à ce que ça soit moi qui s'occupe de
c'est
lui.
C'est vrai? Ah oui?
Comment t'as vécu ça?
C'est difficile. Je le cacherai pas, c'est difficile. C'est même encore, on dirait que ma période de deuil, je l'ai pas encore terminée. Fait que c'est toujours une petite corde sensible quand je viens pour parler de lui, là. Mais non, ça a été rough. Puis surtout que j'ai eu tellement comme d'amour de mes collègues. Je donne un exemple, c'est moi qui ai fait le transport, même encore plus poussé que ça. Suite à son décès, j'ai eu le privilège de l'emballer dans un linceul avec l'infirmière et de le descendre avec le brancardier à la morgue. Avant, le lendemain, de m'habiller en croque-mort puis de venir le chercher là, à l'hôpital où ce qui est décédé, l'enfant Jésus, ici à Québec, et de l'amener dans nos locaux. Quand on est arrivé, mon collègue et moi, j'ai carrément eu une aide d'honneur de mes collègues quand on est arrivé dans le garage. Puis après ça, j'ai mes deux collègues thanatopractrices qui m'ont entendu pour qu'on l'amène là, dans le laboratoire là, puis pour faire son asepsie. Là.
Est-ce que tu le referais?
Ben oui, je le referais parce que je pense que ça fait partie... En tout cas, pour moi, ça a fait partie d'un peu de mon deuil, tu sais, de l'avoir fait moi-même. Pas que j'aurais pas fait confiance en mes consœurs de travail, absolument pas. Je l'aurais laissé sans problème, même quand je suis venue pour le recoudre parce que mon beau-père avait un stimulateur cardiaque, puis on peut pas envoyer un corps au crématorium avec un pacemaker. Quand je suis arrivée pour faire sa suture, je me suis rendue à la moitié, puis j'étais plus capable de le faire. J'étais littéralement figée. Puis j'ai regardé ma collègue, puis j'ai dit « Est-ce que tu peux poursuivre? » Parce que je suis comme plus capable. Je pleurais tellement, j'avais les yeux bouffis. Je voyais rien de ce que je faisais. Fait que, tu sais, tant qu'à me sentir comme si je faisais mal ou commencer à m'envoyer dans une espèce de mindset que, coudonc, tu sais, je suis juste plus capable de le faire. Fait que j'ai juste arrêté de donner mon aiguille serpentine, puis elle a terminé. Mais oui, je crois qu'un membre de ma famille, que ce soit ma mère ou mon père, j'aurais... tendance à le faire dans la limite que je suis capable, mais tu sais, j'aurais pas honte de dire ben à mes collègues, pouvez-vous m'aider? Je suis plus capable. Non,
ouais. Un stimulateur cardiaque, tu ne peux pas envoyer ça à la crémation?
Non.
Y a-tu d'autres choses? Exemple, tu sais, bon, y en a de moins en moins, mais il reste encore une génération qui a des dentiers. Ça, tu t'envoies tout ça là aussi?
Oui, les dentiers, ça change rien. Okay. Là, ça va tout crématiser en même temps que le corps. C'est sûr qu'un pacemaker...
Une dent en or?
Aussi. T'sais, c'est sûr que peut-être qu'il va y avoir une dent qu'on va retrouver après, là, lorsqu'on va qu'on va broyer les cendres, là, évidemment, on ne se le cachera pas. Là. Les cendres, quand ils sont récupérés, c'est un amas de d'os qui reste. Là, et par la suite, ils sont comme
broyés
pour donner le petit sable, la petite cendre là, qui reste à la toute fin. Mais tu sais, exemple, nous, on va retirer, en fait, le pacemaker. Oui, parce que c'est compte tenu qu'il y a une petite batterie à l'intérieur, ça pourrait créer là, un enjeu où il y aurait des micro-explosions là, qui se feraient dans le crématorium. Donc, on doit le retirer. Mais, tu sais, les gens qui ont des hanches en plastique, qui ont des hanches en métal ou qui ont tel autre truc de métal dans le corps, ça change rien, ça va juste rester dans le four crématoire et ça va être retiré par après avec un aimant et ça va être mis de côté, puis c'est une entreprise de l'extérieur qui vient les récupérer.
Est-ce que vous manquez de place dans le congélateur?
C'est une salle réfrigérée. On congèle les corps. Oui. Ouais, on congèle les corps quand il y a une présence d'asticots ou tout dépendant si, genre, le corps est non réclamé ou des choses comme ça. Parce que passer un délai de 30 jours, ça devient un peu plus problématique. T'sais, je disais tout à l'heure qu'on est régi par des lois, mais on est dans une salle réfrigérée d'environ à peu près 4 à 5 degrés. Donc, moi, au travail, oui, j'ai une très grande capacité pour recueillir des dépouilles, mais il y a certaines entreprises dans les régions là, que...
C'est plus difficile.
C'est un petit peu plus difficile, mais on a aussi les morgues dans les hôpitaux, comme par chez nous, à Baie-Saint-Paul, ben c'est un tiroir. Tu sais, la mode là, des tiroirs...
Oui, comme ça, dans les films.
Comme dans les films. C'est deux tiroirs, comme un classeur.
C'est donc bien particulier.
Un cours de tanatologue, ça dure combien de temps?
C'est un DEC, en fait, un DEC au cégep. C'est une technique de 3 ans.
Donc, c'est 3 ans.
Oui.
Les salaires que vous pouvez gagner en tant que thanatologue, ça peut ressembler à quoi?
Généralement, ça joue aux alentours de 60 000, 75 000 par année.
Puis, y a-tu un bon taux de placement?
Oui.
Ah, ouais.
On est en manque de main-d'œuvre, donc c'est un 100 % de placement, là, c'est
100
certain. 100 %? Okay. Je dirais peut-être pas ça comme ça. Je pense que mon coordonnateur de programme ne m'aimerait pas, là, mais tu sais, oui, c'est facile de placer là, des gens, là, parce que, tu sais, oui, on a une très forte demande, puis on s'en cachera pas, il va y avoir le dead boom aussi qui va s'en venir, donc on s'attend à avoir là, du décès là, par année, là, pas pire.
À cause de la génération qui va nous quitter.
Effectivement.
Ouais. OK. Puis, tu me dis, est-ce qu'ils en ont besoin partout dans toutes les régions? Hein? C'est pas, mettons, quelqu'un qui décède, je sais pas moi, à Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est-tu Québec qui s'en occupe? Comment ça fonctionne?
Nous, on dessert la capitale nationale, un peu sur la rive sud, mais tu sais, des fois, je vous cacherai pas qu'on va chercher des corps à l'extérieur, exemple à Tuc ou peu importe, parce qu'ils font affaire. Bien, il y a plusieurs causes. Je veux dire, moi, je viens de Baie-Saint-Paul, je reste à Baie-Saint-Paul, mais mon beau-père est décédé à l'enfant Jésus, mais on a fait une partie de ses funérailles, on a fait une partie de son dossier ici, mais on a collaboré avec l'entreprise de Baie-Saint-Paul pour les rituels funéraires, mais tout dépendant aussi, souvent, c'est la famille, les gens restent dans les métropoles, dans les centres, et puis lorsque les gens sont à l'extérieur, bien souvent, ils veulent rapprocher le corps d'une certaine façon, mais exactement. Mais pour la main-d'œuvre, oui, on manque de thanatopracteurs, on en a toujours besoin. Des gens du milieu aussi, justement, vu que c'est tabou, tu sais, les gens n'osent pas nécessairement... venir présenter leur CV parce que là, soit qu'ils ont peur ou qu'ils méconnaissent ce métier-là. Donc oui, on va toujours avoir besoin de monde, c'est certain. Dans les grands centres, c'est un petit peu plus facile de trouver, évidemment, là, du staff, comme on dit, mais c'est sûr. Moi, je prône quelqu'un qui est très réactif dans une entreprise, en fait. Moi, j'ai suivi l'AEC avant mon DEC, et puis ce qui fait en sorte que je suis comme mille et une tâches. Je suis très tâche connexe. Je peux autant faire de l'aide laboratoire que de faire du transport, que faire les agents d'accueil, du conseil aux familles. Donc, tu sais, dans les régions, c'est ce qu'on voit beaucoup, les gens qui font un peu de tout.
OK. Des auditeurs qui nous écrivent. « Salut, je suis thanatopracteur et j'ai procédé, moi aussi, à l'embaumement de ma grand-mère. Le deuil était, en effet, plus facile à vivre. »
Et c'est capoté. Moi, ma dernière question est vraiment simple. Es-tu plus féminin ou masculin comme domaine?
On a une cohorte pas mal de filles, en tout cas, en ce moment, nous autres. Ouais.
Qui trippent sur les chats.
C'est ça qu'on a appris. On a quelques hommes, en fait, mais tu sais, il y a beaucoup d'embaumeurs qui sont issus de grand-père à grand-père, père à père. Là, tu sais, mm-hmm. là, on est vraiment dans le old school. Là. Mais oui, on a une tangente plus féminine chez les embaumeurs. Mais tu sais, on a encore certains hommes là, qui ont les guts là, de venir se frotter à des femmes.
Moi, j'avais une vision que c'était plus masculin, vois-tu, c'est particulier.
Bien, dans le temps, c'était beaucoup ça, anciennement. Mais tu sais, aujourd'hui, on a quand même la féminisation là, qui... On est vraiment, tu sais, plus sur un piédestal là, avec les hommes puis les femmes là, dans le domaine.
Hey, Marie-Pierre, on aurait pu jaser pendant des heures et des heures, j'ai l'impression. Visiblement, ça intéresse notre monde parce que ça réagit beaucoup au 971-1021 puis sur le Twitch. Merci de t'être déplacée, d'être venue démystifier ce métier-là avec nous aujourd'hui.
Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation.
Marie-Pierre Charest-Godreau, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
À la prochaine.
Salut.
À la prochaine.
Il reste plein d'autres questions.
Mais moi, je suis en confiance si je décède. Là. Oui. C'est Marie-Pierre que je vais appeler.
C'est Marie-Pierre. 11h14, on vient.
Ce segment d'émission, présenté par le Centre d'information.